affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. Alors que le froid s'installe en France, nous vous invitons aujourd'hui à partir en voyage en Sibérie. Voyage des plus confortables, rassurez-vous, puisqu'il s'agira de se laisser transporter par les récits de Dominique Fernandez de l'Académie française et du photographe Ferrante Ferranti, tous deux auteurs d'un magnifique ouvrage intitulé Sibérie, Sibérie au pluriel, paru aux éditions Actes Sud. Avec eux, nous allons embarquer dans le célèbre transsibérien, qui est le seul vrai train fantôme, puisqu'à proprement parler, il n'existe pas. Nous naviguerons sur des fleuves gigantesques dont on peine parfois à distinguer l'autre rive, et surtout, nous découvrirons une parcelle de la vraie Russie. Non pas celle des clichés sur l'âme slave, ni celle des touristes pressés de Moscou et Saint-Pétersbourg, encore moins celle des médias avides d'indignation et de sensationnel à bon compte. Ce sera la Russie profonde, avec ses laideurs et ses beautés, celle où la mélancolie des centaines de kilomètres avalés remplace le temps qui passe. On est véritablement entré en Russie, finalement, lorsque l'on commence à compter en jours et non plus en heures. Mais nous allons surtout découvrir les Sibéries, puisqu'il y en a plusieurs. La terre de souffrance, tour à tour glaciale et étouffante, où des prisonniers sont envoyés depuis l'époque des tsars, et où des centaines de milliers d'hommes sont morts à l'époque du goulag. La taïga, la steppe, mais aussi des villes, des villages, le lac Baïkal et ses immensités, et bien entendu des gens, les habitants de cette Sibérie, qui vivent à mi-chemin entre archaïsme soviétique et modernité ultralibérale. Alors cet ensemble étrange et gigantesque constitue ce que Dominique Fernandez a appelé le rêve sibérien, et que Ferrante Ferranti est parvenu à retranscrire à travers ses magnifiques photographies. Donc dans cet ouvrage, Sibérie au pluriel, paru chez Actes Sud et en coopération avec l'Imprimerie Nationale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pourrions-nous évoquer un livre également qui vient de paraître et auquel nous consacrerons bientôt une émission, qui est finalement le premier livre consacré à l'Académie française et que vous venez, messieurs, de co-signer à nouveau. Ce sera donc votre 26e livre, 25e livre ensemble ?
Au moins. Mais c'est pas moins. C'est pas le premier livre sur l'Académie, il y en a beaucoup. Mais ce sont toujours des livres sur l'histoire de l'Académie, avec des anecdotes qui sont très bons d'ailleurs. Même Carrière d'Encausse en a fait un il y a 2-3 ans. Et ce sont des livres d'historien. Mais on n'avait jamais photographié, à part la coupole et le dehors, l'hémicycle, on n'avait jamais photographié le détail de l'architecture qui est magnifique. C'est Levaux, un des plus grands architectes français, et Ferrante est monté sur les toits, rampé sur les corniches. Enfin, il a fait un vrai travail de photographe et on découvre cet admirable bâtiment en soi. Et puis le tombeau de Mazarin, par exemple, personne ne connaît, avec de très belles statues. Donc c'est pas d'où le premier livre, mais...
Le premier livre en images, alors.
La première fois qu'on photographie, puisque même des gens d'ici m'ont dit « j'avais jamais vu ces aspects de la... » Personne ne sait qu'il y a deux coupoles, par exemple. Il y a deux coupoles. C'est extrêmement... Personne ne sait qu'à l'intérieur, c'est ovale, la coupole, et dehors, c'est rond. Tout ça, c'est prodigieux. Et puis, alors, mon texte, moi, si vous voulez, est un peu moins conformiste que d'habitude, je crois, parce que j'épingle aussi les défauts ce que je pense être les défauts de... Pas de mes confrères, peut-être pas aujourd'hui, enfin, des précédents. C'est-à-dire que c'est pas du tout une géographie, vous savez, de la pommade, comme ça. Non, je dis ce qui me paraît bien et ce qui me paraît pas bien.
D'accord. Monsieur Ferranti, comment avez-vous fait, alors, pour pénétrer, justement, cette académie un peu inédite ?
Eh bien, d'abord, il faut préciser que ce livre s'inscrit dans une, je ne dirais pas une collection, mais dans un esprit de livre consacré à des lieux sacrés, des lieux secrets, c'est un lapsus, des lieux où très souvent les gens ne peuvent pas entrer, auxquels ils ne peuvent pas accéder. Et donc, bien, il y a Mathieu Zamponi qui est à l'Institut de France, qui est responsable du patrimoine, et M. Pasqualini aussi, qui m'ont ouvert les portes au sens premier du terme et qui m'ont permis donc de pouvoir me glisser dans tous les interstices de l'édifice. Alors, cette révélation, justement, enfin, moi, ça a été le moment le plus émouvant, c'est quand je me suis retrouvé sous l'arc qui sépare justement le petit lanternon de la grande coupole, que j'ai mesuré la particularité de cet édifice. C'est-à-dire que c'est un lieu qui avait besoin d'un regard neuf, Et surtout, je pense à toutes les personnes qui rêvent de pénétrer. Il suffit d'évoquer les grandes réceptions. Mais au-delà des réceptions, il y a cette vie de l'architecture, l'élégance, le raffinement, l'influence italienne, alors qu'on enferme le veau dans le classicisme français. Voilà, donc c'était un défi de... Bon, mon travail, en règle générale, on va peut-être l'aborder dans d'autres domaines, c'est de privilégier le détail pour révéler le tout. Donc à travers des toutes petites des lumières qui glissent sur la pierre ou simplement des éléments de l'architecture, eh bien peut-être on a envie d'imaginer des lieux qui souvent sont montrés aussi dans leur intégralité.
Combien de temps avez-vous passé
J'étais très régulier, j'ai guetté la neige, ça a été à peu près un an et demi. Il a fallu. Ceci dit, ce qui est merveilleux, c'est que c'est comme une carte blanche. Quand j'annonçais ma venue, je pouvais me glisser partout. Il est important de noter qu'il y a un magnifique ouvrage sur l'Institut de France. Hein, il y a un livre de référence de M. Bablon. Et là, ce n'étaient que les lieux qui appartiennent à l'Académie française. Donc le défi paraissait complexe, enfin difficile à relever parce que il y a finalement assez peu de lieux. Monsieur Fernandez en parlerait beaucoup mieux, mais le but était d'aller jusqu'au bout, de montrer vraiment les moindres détails, les salles du dictionnaire, etc.
Entendu. Alors, chers auditeurs, nous consacrerons sous peu une émission complète, je pense, à cet ouvrage qui est très important pour Canal Académie, vous le comprendrez. Mais en attendant, donc partons pour la Sibérie. Et ma première question est un peu liée justement à l'apparition de cet ouvrage sur l'Académie française. Comment un photographe réputé, un membre de l'Académie française, quitte-t-il le confort parisien pour se lancer dans une aventure pareille? Parce que la Sibérie, ce n'est pas le confort, malgré
tout. C'est pas la première fois, vous avez nous voyagé.
Je sais.
Traverser toute l'Amérique du Sud, tout le Proche-Orient,
le...
Oui, et Ferrante encore plus, et beaucoup plus loin encore. Non, ça, nous sommes des voyageurs, toujours. Alors ça, c'est pas...
Ce n'est pas ce qui vous faisait peur, là.
Non, mais c'est que maintenant, en russe, en 2010, il y avait une année franco-russe, et donc a invité un certain nombre d'écrivains, et de photographes, et de journalistes, à faire ce voyage dans le train de Moscou à Vladivostok. Évidemment, nous sommes précipités pour...
Pour l'occasion,
parce qu'un voyage difficile à faire, coûteux sans doute, et donc nous avons été très bien traités, on a pu voir en nous arrêtant dans les villes, et je voudrais simplement rectifier votre présentation, vous avez dit des centaines de kilomètres, mais c'est des milliers de kilomètres.
Oui, 9000 kilomètres.
Et ce n'est pas des centaines de milliers de gens qui ont été tués, c'est des millions.
Oui, plusieurs millions,
en Sibérie, hein. Tout est gigantesque en Sibérie, l'espace et l'histoire aussi.
C'est exact. C'est tout à fait exact. Mais bon, on voit, j'ai traversé un peu la Russie, et c'est vrai qu'on voit...
Vous savez que la Sibérie, c'est un quart de la surface terrestre. Immergée.
Oui,
on a fait 10 000 kilomètres, c'est un quart du tour du monde.
On a fait 10 000 kilomètres avec le Transsibérien, mais ensuite, il y a eu les 2 000 et quelques kilomètres du Yénisseï.
Donc la Sibérie, c'est ça, on a mal à s'imaginer quand on n'y a pas été, parce qu'on le sent, cet espace, c'est gigantesque, on fait 3 semaines de train dans la taïga, la forêt, en Europe occidentale, tout est limité, il y a des maisons partout, des bicyclettes, des voitures, là il n'y a rien, c'est vraiment la nature,
des boulots,
des fleuves, des lacs, c'est prodigieux ça.
Oui. Alors l'ennui ne gagne pas, c'est la mélancolie. Alors,
c'est stupide si on s'ennuie, ça peut arriver, les gens qui s'ennuient partout, tout le temps, mais non, c'est tellement beau, c'est prodigieux. Moi je pensais que ce serait monotone, j'avais emporté beaucoup de livres pour lire, puis j'ai rien ouvert parce que vous êtes happé par le paysage.
Et alors, vous avez été invité donc, mais... Pensons peut-être aux auditeurs de Canal Académie qui voudraient marcher dans vos traces. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer pour faire ce voyage? Est-ce que la langue est un obstacle?
Non, parce que là-bas, personne ne parle aucune langue que le russe.
Oui.
Donc, mais avec l'anglais, ou même sans parler du tout, vous savez, ils sont très accueillants. Je pense que moi, j'ai voyagé en Russie avant, en Russie d'Europe, souvent. On se débrouille, vous savez, on se débrouille même sans connaître la langue d'un pays. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. C'est une idée complètement farfelue de croire, de dire qu'il faut connaître la langue. Il y a des choses élémentaires.
Oui.
Donc on ne peut pas discuter d'idées, mais pour tout ce qui est logement, nourriture, on se débrouille très bien.
Ah oui, ça, on se débrouille, oui, effectivement.
Il faut quand même préciser qu'on a voyagé dans des conditions particulières, pour ne pas dire exceptionnelles. C'est qu'il y a deux solutions. Toutes les personnes peuvent prendre le Transsibérien. Mm-hmm. Il suffit que vous arriviez à Moscou, à la gare de Yaroslav, vous achetez votre billet et vous descendez où vous voulez.
Oui.
Il ne faut pas oublier non plus que le Transsibérien, ça c'est aussi, je crois, un malentendu. Les gens pensent à l'Orient Express, ils pensent à tous ces trains luxueux qui vous amènent. Pas du tout, c'est un train qui dessert les villes. C'est le seul moyen pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer l'avion ou même qui ont envie de traverser les paysages en train. Et donc, vous avez la possibilité simplement de vous arrêter à la ville suivante.
Et généralement, on prend plusieurs trains. D'ailleurs. C'est pour ça que je parlais d'un train fantôme, parce qu'il n'existe
pas. Non, parce qu'en fait, il part vraiment tous les jours à 18h, à 16h30
de Moscou,
de Yaroslav. Il va directement à Vladivostok. Oui. Il a des escales différentes. Rien ne vous empêche ensuite.
Ah oui, parce que moi, je suis toujours descendu en cours. Oui,
oui parce qu'on descend en cours. Parce que il faut, ou alors, il faut vraiment être passionné par le trajet. Moi, j'ai des amis qui l'ont fait depuis, surtout
donc
en
c'est
hiver.
C'est 5 jours d'une traite.
C'est 6 nuits et 7 jours.
Mais il y a comme, je crois, plusieurs trains, parce qu'il y a 5 ou 600 gares possibles. Nous, on s'est arrêté dans les grandes villes, mais il y a des petites villes. C'est vraiment le train qui dessert.
Des petits patelins, oui, avec les babouchkas.
Je pense qu'il y a plusieurs sortes de trains. Il y a l'omnibus, l'express.
Oui, avec des niveaux de confort différents d'ailleurs.
Parce que c'est pas très confortable. Même nous étions en première classe, c'était vraiment vieux et branlant,
sommaire,
avec un charme
très sommaire.
Ah oui, c'est ça. Donc vous aviez ce train un peu soviétique, avec le tapis rouge dans le couloir.
Pré-soviétique, mais oui, c'est pas.
Il y a des trains allemands plus confortables aujourd'hui, avec des cabines de douche.
Même. Oui, mais alors, c'est
le charme est rompu.
Si vous voulez aller vraiment en Sibérie, c'est comme très très acceptable comme confort. On a des couchettes plus larges qu'en chez nous, parce que le train les rails étant plus écartés, les wagons sont plus larges. Et c'est quand même ça, c'est le confort, la douche, tout ça, ça fait un peu...
Oh, ça aide tout de même, non ?
Non, c'est pas, non. Je ne ferais pas, j'aimerais pas.
Moi, j'ai essayé. J'ai fait plusieurs séjours, et avec la douche, parfois, c'est pratique tout de même.
Je ne dis pas que ce n'est pas pratique, mais je veux dire que c'est...
On perd le charme, vous voulez dire.
C'est un train normal, je veux dire.
L'univers du train en Russie est quand même une véritable institution en soi. Peut-être peut-on en parler un peu ? Parce que déjà, il y a 3 classes. Donc, hein. On a première classe, en gros, le train de nuit, en fait, est une espèce de grand wagon avec première classe, deuxième classe, troisième classe. Troisième classe, c'est une espèce de chambre,
si on
peut
dire. Wagon à bestiaux.
Oui, vous dites mieux que moi, c'est vrai.
Parce qu'il n'y a pas de compartiment.
Ils sont en large, comme les chevaux. Vraiment.
C'est-à-dire qu'il y a, comme dans les trains indiens d'ailleurs, vous avez un corridor et vous avez les banquettes, les couchettes sur les côtés. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes sans cesse confronté au passage, parce que les gens glissent le long du train. C'est pas tout d'être dans un compartiment, parce que vous n'avez pas de raison normalement d'aller dans le suivant. Sauf quand vous allez au wagon-restaurant. Et là, vous traversez tout le train. Et là, vous avez sans arrêt le passage des autres voyageurs. Et ensuite, vous avez sur le côté, donc, un compartiment non fermé, avec 4 couchettes, généralement.
Donc là,
4 à 6
place.
Couchettes. Oui. Non, même en troisième place.
Ah, même en troisième. Ah, oui.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les couchettes sur le côté et à droite.
D'accord. Donc en deuxième classe, en revanche, nous avons des compartiments avec 4 couchettes où l'on peut côtoyer des
gens. Et première classe, c'est 2 couchettes.
Et première classe, 2 couchettes uniquement.
Avec un petit
lavabo. Le charme, c'est aussi qu'on se fait servir du thé dans des espèces.
Oui, mais il faut rappeler quand même que le train dans la culture russe est très important. Certains des plus grands textes littéraires, L'Idiot commence dans un train, Dostoïevski, la Santa Kreutzer, Tolstoï commence dans un train. Il y a d'autres textes, des grands romans. C'est un lieu de vie, comme c'est tellement grand les parcours, c'est tellement long. Et c'est pour ça que dans chaque compartiment, il y a une petite lampe, il y a du thé à volonté,
un samovar.
Je veux dire, c'est pas du tout comme le train ici. C'est pas qu'on va d'un endroit à l'autre à toute vitesse. C'est un lieu où on vit, on se rencontre, on parle.
Et vous avez fait des rencontres agréables
Non, parce que là,
vous étiez tous ensemble, pour le coup.
Les Russes voulaient, ont essayé de nous parler, mais enfin, là, on était un peu démunis. Il vaudrait mieux apprendre le russe avant de partir.
Avant de partir, avoir quelques mots.
Ou alors vivre vraiment, faire le voyage en troisième classe ou en deuxième classe.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, d'un bout à l'autre, parce que c'est éprouvant, moi j'ai des amis qui l'ont fait, mais ils le font avec la quête de l'aventure qu'on pourrait faire dans un monde arabe sur une destination quelle qu'elle soit. C'est que vous êtes à la rencontre des autres et là, vous trouvez des solutions à un moment donné pour dialoguer, mais vous avez un autre temps.
Oui.
Parce que nous, on cherchait surtout à dialoguer avec les personnes sur le quai des gares, parce que ce qui est merveilleux, ce sont les escales. Et puis en plus, nous n'avons pas pu établir de grandes relations, pour raison simple, c'est que le voyage que nous avons fait était ponctué de grandes étapes liées à des rencontres.
Oui.
Si bien qu'on prenait très souvent le train du lendemain, voire le surlendemain. On rattrapait, si vous voulez, le train. Et bien sûr, les gens étaient déjà repartis. Même s'il y avait eu, moi ça m'est arrivé, de quelques contacts de gens qui vous invitent à partager leur repas, etc. Mais ça y est, nous sommes descendus et on continuait.
Oui. Alors, est-ce que vous avez profité, vous avez fait des photos dans ces trains? Comment faites-vous, vous demandez leur avis aux gens pour les photographier? Comment est-ce que le contact s'établit entre le photographe et finalement le sujet?
Alors, les seules photos possibles ont été en effet liées à des rencontres fugitives, mais surtout, il faut préciser, les gens ne s'en rendront peut-être pas compte dans le livre, que ce sont les pires conditions de photographie que j'ai eues de ma vie. Après Saint-Pétersbourg, hein, parce qu'on a fait avec M. Fernandez quand même plusieurs livres sur Saint-Pétersbourg, et les conditions climatiques ont été les plus rigoureuses. Mais le problème est que vous avez deux types de vitres dans les wagons. Vous avez les vitres du compartiment qui sont bien évidemment fermées. Oui. Il n'y a même pas la possibilité de les aérer parce qu'elles sont un écran vers l'extérieur. Et dans le corridor, vous avez des toutes petites fenêtres et que la Provenitsa doit ouvrir pour vous uniquement sur autorisation. Parce que la Provenitsa, c'est évidemment la muse, la gardienne, c'est celle qui détient toutes les clés, et pas uniquement les clés du wagon, et c'est elle qui surveille tout, avec d'ailleurs, on avait une Provenitsa merveilleuse, mais elle a compris ma frustration, si bien qu'à peu près un tiers des photos publiées ont été faites parfois de mon compartiment, c'est-à-dire à travers une vitre. Et ça, c'est, je crois, très important parce que ça peut expliquer parfois qu'il y ait des effets visuels liés justement à cette contrainte. Et en revanche, parfois, il y a des photos faites uniquement grâce à un objectif qui se glisse dans cette petite fenêtre. Avec une conséquence très importante, c'est que moi, c'est ce que je retiens de cette expérience photographique du Transsibérien, c'est que vous ne pouvez jamais anticiper le paysage. À la différence d'une voiture, d'un autobus, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire que votre horizon est déployé devant vous. Alors que là, ce ne sont que les horizons latéraux. Et le train avançant en ligne droite, vous ne prenez pas suffisamment de champ pour deviner ce qui va se passer. Et ça fait partie, je crois, de cette notion de monotonie évoquée plus précédemment. C'est que la surprise est provoquée par le paysage qui se déroule en permanence de façon latérale. Si bien que quand quelque chose magnifique, un très beau sujet de photographie, c'est déjà présenté à vos yeux, c'est souvent trop tard.
Mais il faut ajouter que cette difficulté est corrigée par le fait que le train avance très lentement.
Oui.
Quand il va à 80, c'est le maximum, c'est pas le TGV. Là, ce serait impossible. Donc, il y a quand même... il roule souvent à 60. C'est très sinueux, hein. C'est pas du tout le droit, le Transsibérien. Ça ondule, il y a des méandres.
Surtout à la fin. Surtout
parce qu'il y a des marécages, des lacs, tout ça. Mais ça reste quand même très difficile de photographier, mais heureusement, ça ne va pas trop vite. Et même si on ne photographie pas, on a le temps de voir, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, avant de poursuivre ce rêve sibérien, justement, peut-être pourrait-on aborder le revers de la médaille dans la littérature des gens comme Dostoïevski, Tolstoï, Grossman, Solzhenitsyn, plus récemment Sylvain Tesson ou le russe Nikolaï Lilin, qui a écrit un livre qui s'appelle Ourkass, ont évoqué la Sibérie à travers donc, la littérature. C'était rarement... pour la présenter sous un jour très avenant. Et même lorsque le charme opérait, c'était pour décrire tout de même une nature souvent très hostile et un monde extrêmement rude. Alors, pouvez-vous nous parler un peu justement de cette face sombre
attendez,
de la Sibérie ?
D'abord, nous avons fait nos deux voyages l'été. Hein.
Oui.
Donc, c'est plutôt la fournaise, quand on va parler.
C'est la fournaise, avec les moustiques,
notamment. 30 degrés. Donc... C'est pas du tout, en effet, la Sibérie des 10 autres mois qui sont dans la glace. Il y a le permafrost où c'est gelé en permanence. Donc ça, évidemment, le climat est terriblement dur. Et puis, depuis Pierre le Grand, depuis le premier tsar moderne, c'était une prison naturelle pour les Russes. Il n'y a pas besoin de barreaux, parce que quand on est là-bas à 8000 km, s'évader n'a aucun sens. On meurt tout de suite. Donc, ça a été une prison, un bagne. Dostoïevski a fait 4 ans de bagne, quand même. Krasnoïarsk, son plus beau livre, à mon avis, c'est Souvenirs de la maison des morts. Hein. C'est un livre extraordinaire. Tolstoï écrit Résurrection. Tchekhov est allé visiter le bagne de Sakhaline, au bout du Transsibérien. Et puis, c'était un désert, il faut dire. C'était la Sibérie, à cause du climat, c'était un désert, mais avec beaucoup, un sous-sol très riche. Encore aujourd'hui, le pétrole, le gaz, l'or, les diamants, c'est richissime. Donc, on a envoyé des colons et des bagnards. C'est un peu interchangeable. Donc, c'est normal que c'est pas la Côte d'Azur, que tous les récits sont...
Alors, pourquoi est-ce aussi attirant, cela dit, malgré tout ?
Mais parce que c'est attirant parce que c'est...
Parce que justement, c'est pas la Côte
d'Azur. Mais tout, je veux dire, c'est difficile à dire, mais c'est un mélange. Par exemple, l'histoire est toujours présente. En Suède, c'est très ennuyeux, il ne se passe rien, il ne s'est jamais rien passé. Vous allez là, vous sentez tout le poids du monde. La Russie, c'est énorme, la culture russe. Tout ce poids de tragédie, accentué encore sous le communisme, et qui n'a pas commencé là, hein, ça, c'est comme je dis bien avant. Et donc ça, c'est présent, et ça donne une charge émotionnelle, enfin pour moi, émotionnelle à chaque étape du voyage. Ouais. Enfin, on a vu la maison où Lénine a été en exil pendant 3 ans, le jeune Lénine. Moi, ça fait quand même quelque chose. À Chouchenskoye, c'est là qu'il a écrit ses premiers livres, qu'il a épousé la Krupskaya. Il avait 25 ans, il était inconnu. Mais quand on pense de ce petit village est parti cet immense phénomène, affreux, mais immense quand même, enfin évidemment, tout ça est très présent. Plus le sentiment de l'immensité. Si on est sensible, c'est quelque chose de cette énormité, cette façon d'être sans limite, comme la mer, si vous voulez. C'est une terre sans limite. Alors qu'en Europe, et même en Amérique, souvent, à part les déserts...
Tout est borné.
Vous sentez tout de suite l'homme. Là, c'est ça qui fait l'extraordinaire fascination, pour moi, de la Sibérie.
D'accord. Alors, vous avez... Pardon.
Non, je pense que c'est très intéressant ce que dit Dominique, mais je crois aussi qu'il faut ne pas oublier, au-delà du fait que nous ayons précisé que le Transsibérien soit un train de transport, c'est un train qui est lié profondément à l'exploitation de la Transsibérie. Par exemple, Novosibirsk est une ville que Jules Verne ne pouvait même pas mentionner parce qu'elle n'existait pas. Mmh. C'est grâce au Transsibérien, avec les progrès du train, qu'on a fait la conquête de l'Est. Oui. Et ce territoire qui est... Alors, c'est bien pour ça qu'on a appelé Sibérie avec un S, parce qu'il y a quand même aussi deux voyages et deux Sibéries différentes. Parce qu'il y a le train que tout le monde peut prendre, mais nous avons eu la chance de prendre un bateau qui est donc... qui est remonté vers le nord, mais qui a descendu la rivière Yenisei. Et là, on s'est rendu compte, au-delà même du rythme... Enfin, c'était l'opposé même du train, puisque le bateau ne part qu'une fois par semaine, et il ne peut voyager que pendant 2 mois par an. Le reste du temps, les personnes sont totalement isolées dans le froid. Il y a éventuellement des routes tracées dans les neiges. Parfois, c'est le fleuve glacé qui devient une nouvelle route, une route improvisée. Et donc là, l'aventure était encore plus saisissante, parce que là, ce n'était plus du tout un voyage dans le temps, mais c'était avant tout un voyage dans l'espace. Parce que ce qui est merveilleux, il faut préciser aussi, c'est que le Transsibérien est d'une ponctualité désarmante. On imagine en effet ces trains qui vont au bout du monde, qu'à tout instant, ben, ils prendront 5 minutes de retard, puis 10 minutes, etc. Mais pas du tout. Ça part à la minute près, avec en plus un horaire de train arrêté à l'horaire de Moscou, si bien que vous devez sans cesse, à force de faire des calculs, vous dire où suis-je, vous avez évidemment un seul choix, c'est d'oublier le temps et de prendre votre train quand il part, un point c'est tout. Et donc, toute cette démarche du temps... vous conditionne, vous êtes différent, vous êtes tout à coup, vous abandonnez à cela. Mais moi, je crois que l'aventure du bateau a été tout aussi marquante, voire plus, parce que là, on a perdu tous nos repères et on avait conscience que des gens nous voyaient passer une fois par semaine, on descendait pour quelques minutes à peine parfois, mais que un mois plus tard, c'était terminé. Ces gens seraient oubliés.
Oubliés, oui. Oui, donc c'est vraiment là où on est dans le rêve sibérien.
Il faut ajouter que quand on dit qu'il fait très froid, nous, ça nous fait frémir, mais eux, ils sont habitués, ils sont nés là. Et au fond, ils ne souffrent pas du froid. Ils sont matelassés,
on peut avoir jusqu'à 10 kilos de vêtements.
On a beaucoup moins froid en Russie l'hiver qu'en Sicile, à Noël, je suis sûr, parce que c'est chaud, ce sont des pays froids, en fait. Ouais. La Russie, c'est un pays froid, mais on le sait, tout est chauffé, même à Moscou.
Les
cages d'escalier sont chauffées, je veux dire, c'est... Oui.
Et il y a un contraste très violent lorsqu'on ouvre une porte et que l'on passe de 30 degrés à l'intérieur à moins 20 à l'extérieur.
Chaque maison de paysan, la plus petite, a son bagna, c'est-à-dire une espèce de sauna de bain de vapeur qu'on attise avec du charbon, donc... je ne vois pas qu'ils souffrent vraiment du froid. Les Allemands, ils sont aussi habitués, je pense. Ces petits villages, évidemment, pour nous, ça nous paraît effrayant, mais je pense qu'il faudrait essayer de voir pour eux comment c'est.
Mais je pense qu'ils sont d'ailleurs très contents, non, de rencontrer un étranger.
Enfin, nous, ils n'ont pas beaucoup rencontré.
Ils ne vous ont pas vu rencontrer.
On était très attendus. Il y avait, comme vous allez voir dans le livre, on reflète souvent l'accueil qui nous a été réservé.
Pouvez-vous en parler
gens.
Un peu
Ça, c'était, je crois aussi... Bon, il y avait cette je crois ce qui a guidé ces deux voyages, c'est cet effet de surprise permanent. Il a suffi que l'on nous trace un itinéraire. On l'a relu avec Dominique, je ne sais pas moi, 5 fois. On disait, voilà, on s'arrêtera ici, là, etc. À chaque fois, on oubliait les villes tant qu'on ne les avait pas découvertes. Donc ça, je crois que l'esprit est sans cesse en attente, dans une quête, dans un effet de surprise. Et donc, ça favorise bien sûr un type de rencontre. Peut-être pas celle qui est inscrite dans le temps, mais au contraire, quelque chose qui est lié à l'imprévu.
Qui est impromptu.
Oui. Lié à l'imprévu.
Mais si on sait le russe, vous pouvez, on aurait pu parler aux gens.
Oui.
Malheureusement, ça, c'est le principal obstacle. C'est pour ça que c'est bien d'essayer d'apprendre le russe.
Absolument. Oui.
Alors, j'ai eu une très, très, très belle rencontre avec un photographe de Kazan, par exemple, qui avait su que des écrivains français, parce que nous étions 15 écrivains et auteurs au cours du premier voyage, et il savait qu'un photographe faisait partie du lieu. Comment l'avait-il su? Je ne sais pas. Et il est venu à ma rencontre, et c'est une des plus belles rencontres, non pas du voyage, mais de ma vie. C'est un homme qui avait photographié. Qui était un représentant, enfin un reporter sous le communisme, sous le soviétisme, et il a été étonnant. Il m'a montré ses archives, son univers, et c'est des personnalités comme on en rencontre beaucoup en Russie.
Et moi, j'ai aussi une très belle rencontre que je raconte, et là, rencontre muette, c'est un étudiant après une table ronde intermédiaire qui m'a fait passer un message à travers des pièces de monnaie anciennes qui représentaient Tchaïkovski. Et on s'est très bien compris sans se parler, vous voyez, c'est très fort, moi je m'en rappelle très bien. Puis il s'est enfui, j'ai même pas eu le temps de le remercier.
C'était ça, c'est
très,
fantastique.
Très, très touchant, très émouvant.
Alors, vous faites aussi, Ferranti, un portrait sur un bateau, un très très beau portrait d'un marin, je pense c'est un membre de l'équipage, avec des yeux verts, absolument prodigieux.
Voilà. On l'appelle le batelier de la Volga, ou du Volga, parce que...
C'est vous qui l'avez appelé
Volga ? Oui, parce qu'avec Dominique, enfin, je vous raconte juste les circonstances, nous avons été accueillis sur le bateau par ce jeune homme, il devait avoir une vingtaine d'années.
Il était capitaine du bateau.
Oui, mais justement, on était même étonnés. Il devait avoir peut-être 25 ans. Mais il paraissait extrêmement jeune.
Où était-ce ?
C'était à Kazan. Nous allions à Kazan, mais nous allions sur une île magique qui s'appelle l'île de Sviask. Et il suffit. Parfois, on oublie que c'est la Volga. Je dis le Volga parce que Dumas l'appelait toujours. Enfin, à l'époque, on le masculinisait. Et donc, ce jeune homme nous a accueillis avec beaucoup de sourires et on s'est installé sur le bateau. Et au cours de la navigation, me promenant sur les ponts, j'ai vu que c'est lui qui tenait la barre. Et j'étais tellement étonné de ce contraste, de ce jeune homme magnifique comme ça qui puisse conduire ce bateau, que donc je lui ai demandé si je pouvais le photographier. Mais là aussi, il n'y avait aucun mot, aucun langage commun. Et là aussi, ça s'est fait avec les gestes. Il y avait une forme de confiance qu'il a fallu établir de façon beaucoup plus fragile. Et il a donné à son coéquipier la barre. Il est sorti sur le pont. Donc il y avait cette tension liée aussi au fait que je n'allais pas lui demander de faire des portraits pendant un quart d'heure. Je lui ai demandé de s'asseoir quelque part. Il est à la bouée derrière. Il a donné, j'aime ce portrait, d'ailleurs je l'ai mis seul dans le texte de Dominique, comme unique portrait, parce que je voulais qu'il témoigne justement de cette notion que vous abordez. Que signifie rencontrer quelqu'un loin, sans langage, sachant qu'on ne le reverra plus?
Oui. Vous lui en avez, il ne peut pas recevoir sa photo.
Il ne m'a rien demandé.
Non.
J'ai essayé de lui faire comprendre, il n'y avait pas de langue. Et non, je crois qu'il a donné son image. Parce qu'il avait confiance aussi. Il savait que celle que je prendrais était une image respectueuse. Je pense souvent à lui. D'ailleurs, cette photographie était exposée à la MEP au cours d'une exposition que j'ai faite récemment, enfin cet été. Et tout le monde était fasciné par la présence de ce regard. C'est un regard qui va au-delà des apparences.
Il faut dire que c'est un Kazan, c'est le pays tatar. C'est le pays de Nouriev aussi.
Oui,
la beauté des hommes là est extraordinaire.
Oui. Alors, c'est intéressant. Il y a deux sujets là qui se télescopent. L'un, c'est les hommes qui vivent là-bas. J'aimerais qu'on y revienne. L'autre, c'est toujours sur cet aspect technique. C'est important, je trouve, et peut-être que les auditeurs de Canal Academy seront sensibles, de savoir capter le regard d'un homme qui accepte, ou d'une femme, qui accepte de se laisser photographier, parce qu'il y a quand même une part d'intimité qui est prise, qui est captée. Et on a peut-être. Chez les photographes amateurs, vous êtes un grand photographe, chez les photographes amateurs, une tendance peut-être à être brutale et à voler l'image plus qu'à la prendre.
Mais là, vous touchez à l'essence même de la rencontre par l'image. Moi, je travaille par exemple depuis 30 ans sur le sacré. C'est une dimension j'ai très à cœur parce qu'on a le sentiment qu'on entre dans l'intimité. Si c'est par exemple, je ne sais pas, la prière hindoue, tout ce que l'on veut, il y a tout à coup un espace qui ne nous est pas autorisé. Donc, c'est une notion qui est capitale, c'est le respect. Elle s'applique aussi à la rencontre, je dirais, plus urbaine, civile, ou plus humaine, tout simplement, qui fait que d'un seul coup, il y a une vraie rencontre par le regard. Mais ce qui est très important de préciser concernant ce livre, mais aussi tous les livres qu'on fait avec M. Fernandez, c'est que j'ai éprouvé plus que jamais, moi lorsque je voyage, je suis un grand voyageur, je prends du temps pour voyager, mais dans le transsibérien, le rythme était tout le temps pressant. Au-delà de cet abandon à l'espace lié au train, c'est que chaque étape, chaque escale est limitée.
Oui, oui.
Et les photos, si je les ratais pour une raison ou une autre et que les rencontres ne se faisaient pas, c'était trop tard.
Ah, alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir
alors
tout à l'heure.
Alors que M. Fernandez, à tout instant, a ses notes de voyage, ses lectures, il les approfondit, le texte prend une épaisseur, et genre ça, je prends souvent l'exemple de Nicolas Bouvier dans son propre livre « L'usage du monde ». L'usage du monde, on a l'impression d'un livre qui est un livre de voyage, pas du tout. C'est un livre lié à l'écriture, et c'est un livre qui donne de l'épaisseur. Or, le photographe n'a pas l'épaisseur. Il a l'instantané, il a l'éphémère, il a le, si vous voulez, le rythme lié au voyage. Donc, la photo n'existe pas, et bien, il ne veut pas l'inventer.
C'est voilà. Terminé.
Oui, mais enfin, l'écrivain n'est pas quelqu'un qui dort pendant le voyage.
Ah,
mais
ben non, au contraire. Au contraire, il absorbe.
Et après.
Il absorbe. Il
là
a
aussi, non. Moi, je suis aux aguets.
Oui, bien sûr.
Surtout si je sais que je veux faire un livre sur le voyage.
C'est pas vous le saviez avant de partir
Non, je ne connais pas du tout. Mais au bout de 3 semaines, quand je prends des notes comme ça,
il y a
tellement de notes que Mme Salnave a fait de son côté le même, on était avec elle, elle a fait son livre aussi, et c'était tellement riche, mais au départ, non.
Alors, voulez-vous donner un peu de vos secrets aux auditeurs de Canal Académie? Comment prenez-vous vos notes? Comment vous dites que vous êtes aux aguets? Qu'est-ce que ça veut dire, alors?
Ben, tout. Je regarde le paysage, dans les villes, je regarde les rues, les plaques, les affiches, tout, quoi.
Et vous notez?
Prends des notes. Ouais. Je prends des notes. Je fais quelquefois des petits dessins extrêmement maladroits parce que je suis nul. Mm-hmm. Mais pour
mémoriser.
Et puis j'ai une très bonne mémoire. Ouais. Si j'écris pas, j'oublie au bout de tant de voyages, au bout de tant de mois. Une chose que j'ai écrite, une petite note, toc, tout
vous éveille.
15 ans après, ça peut revenir intact.
C'est merveilleux. Ça.
Donc c'est. Je ne sais pas si merveilleux, mais.
Enfin, en tout cas, c'est impressionnant.
Mais j'étais tout le temps sur le pont, je veux dire. Mm-hmm. Tout le temps. Vraiment, les petits détails, parce que c'est les petits détails qui révèlent. Hein,
tout à fait, bien sûr. Oui, l'impression générale ne sert à rien si elle n'est pas détaillée. Vous parliez des hommes, et notamment du peuplement, tout à l'heure, de la Sibérie, et vous dites que finalement, on rencontre plus de personnes de type européen que de type...
Il n'y a que des Européens. Vous savez, la Sibérie était une terre vierge jusqu'au 19e, pratiquement. Il n'y a pas de peuplade autochtone, là. Il y avait quelques chasseurs,
quelques peuples nomades, quoi. Les nénettes.
Et ils ont décidé de coloniser. C'était une colonie. On a découvert qu'il y avait pas seulement des fourrures, mais de l'or, des diamants à l'époque.
Un sous-sol.
Après le pétrole, etc. Donc, les Russes sont partis, sans doute comme on partait en Algérie.
Ou dans le Far West.
C'est le Far West.
C'est
le Far Est, là. En Amérique, c'est aussi le train qui a créé les villes. Exactement.
Et j'allais revenir au transsibérien. Oui.
Voilà. Et donc, ce sont des Russes, des descendants de Russes. Ils ont vraiment le type russe, tout à fait. Regardez l'écrivain Andrei Makine, qui vit à Paris, qui est né à Krasnoyarsk,
c'est
en pleine Sibérie.
C'est vrai qu'on l'oublie.
C'est vraiment le type russe, les très grand, très droit, les yeux très clairs, comme ça. Et il n'y a que en Bouriatie, Oulan Oudé, qui est vraiment un type asiatique prononcé, c'est la seule.
Les influences de la Mongolie qui est toute proche, et puis simplement aussi le voyage inverse, parce qu'on ne va pas tout le temps que de Moscou à Vladivostok, mais il y a aussi tout le mouvement contraire qui est passionnant, parce que Vladivostok, c'est aussi un point d'entrée dans l'Europe, de toutes les Coréens, les Chinois, évidemment, tous ces gens qui.
Enfin, la Sibérie, c'est vraiment l'Europe. Hein. C'est en principe l'Asie après l'Oural, mais c'est un bout d'Europe.
C'est un prolongement de l'Europe, prolongement forcé avec le chemin de fer. Chemin de fer, donc on en revient justement à ce que vous disiez, Vérante Ferranti, qui est essentiel pour la vie de ses habitants. C'est-à-dire qu'il a accompagné pratiquement leur implantation, mais il accompagne aujourd'hui leur quotidien. Parce que...
Oui, mais vous savez, ce train, il longe la frontière sud. Hein, donc c'est pas tellement essentiel.
Mais est-ce que les gens vivent au bord du chemin de fer? C'est-à-dire que les villes se construisent au bord du chemin de fer.
Oui, toutes les grandes villes. Mais c'est au-delà, c'est bien inhabitable, parce que il fait moins 50, alors là, c'est vraiment... Et puis c'est congelé tout le temps. Donc la vie, c'est la frontière chinoise, mongolienne. Alors il reste une immensité, et ça, on le sent dans le train, qu'il y a des milliers de kilomètres déserts au-dessus de... Enfin, au-dessus, sur une carte, quoi.
Plus encore en bateau, je crois. Parce que, exemple, quand nous avons fait le voyage l'été dernier, donc en 2012, il y a eu un immense incendie. et pendant un jour et demi, on n'a pas vu le soleil. L'air était d'ailleurs la couverture
oui,
du livre,
on le voit, oui,
retrace
oui.
cette ambiance étonnante, très tarkovskienne, vous voyez, de cet univers glauque, éteint, terne. Et on s'interrogeait, parce qu'on avait quitté Krasnoïarsk sous une lumière éclatante, et d'un seul coup, un rideau est tombé. Et on nous a annoncé que c'était les fumées d'incendie déclenchées à des centaines de kilomètres qui se développaient depuis des jours et des jours sur des centaines, dans un front sur des centaines de kilomètres. Et il disait ça avec un fatalisme, un naturel, disant de toute façon, qui peut même imaginer d'éteindre de tels incendies ? La nature y pourvoira avec les fleuves, les marécages, les rivières. Mais ce feu fait partie, si vous voulez, de cette notion. Or, nous en subissions les conséquences à des centaines de kilomètres avec cette épée, cette fumée âcre, cet univers voilé, sinistre. Et après, à un moment précis sur le bateau, en naviguant, le voile s'est levé. Le capitaine l'avait dit, dans quelques heures, le bateau retrouvera le soleil. Et on a eu du soleil pendant des jours et des jours. Vous voyez, cette nature, oui, ce fatalisme. Et puis cette notion profonde de la nature, l'essence russe, l'esprit russe est nourri de nature. On le sait depuis, évidemment, toute la littérature, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais je crois que la composante naturelle est fondamentale. Elle est la source de l'imaginaire, de l'imagination et du réel.
On a raté les ours à Krasnoïarsk, c'était notre point de départ, qui est le centre de la Sibérie, qui, le lendemain de notre départ en bateau, chassés par la fumée de l'incendie, sont entrés, paraît-il, dans la ville.
Ah là,
ça, c'était,
ça, voilà. Là il y avait quelque chose pour un photographe et pour un écrivain.
Je
ne sais pas si j'aurais vraiment osé affronter des ours, mais enfin, bon, sait-on jamais.
On a balcon.
Ah oui. Alors, vous avez affronté autre chose, qui est la mémoire. J'ai vu quelques étapes qui sont assez forte, j'ai l'impression. Vous avez visité Igarka avec le musée du permafrost.
Ah oui, ça allait.
Oui, mais ensuite, il y a la reconstitution d'un camp de travail.
Oui,
là, c'est quand même beaucoup plus.
Oui. Et puis surtout, on a vu Norlisk, le grand.
Capitale du Goulag. Oui.
Parce qu'il y avait une grande montagne de nickel.
Oui.
Inexploitée. Staline, en 1935, s'est dit pourquoi on va exploiter ce nickel. Donc il a envoyé des centaines de milliers. Ouais. C'est pas des forçats, c'était des prisonniers c'était la main-d'œuvre gratis. Et c'est ce qu'a la grande différence avec les nazis. Hein.
Bien sûr,
il n'y a jamais eu de camp d'extermination en Russie, c'est bien clair. C'est des camps de travail, on mourait de froid, de faim, de privation, mais c'est pas une extermination
raisonnée, rationnelle,
au nom d'une idéologie. Ouais. C'était des travailleurs, une main-d'œuvre comme ça. Et alors, ils ont construit une ville étonnante, Norlisk.
Norilsk,
qui a quand même 300 000 habitants, je crois, qui est toujours là, complètement très belle. Il y a une place qui évoque Saint-Pétersbourg. Tout ça aujourd'hui est très décati. Et puis il y a les usines en face qui sont restées aussi comme en état, alors polluantes comme c'est pas possible. Et cette montagne de nickel qui s'appelle Golgotha d'ailleurs, qui est toujours là. Et on continue à exploiter ce nickel. Et je sais pas si les conditions de travail sont meilleures que sous le communisme.
Oui.
Hein, c'est ça qui est terrible.
Et c'est là, je crois, que vous racontez que à la fin du goulag, les anciens captifs et les gardiens ont réappris à vivre ensemble.
Oui, c'est ça. La grande différence avec les nazis, c'est que quand il y a eu la libération, beaucoup de gens déportés sont restés là parce qu'ils n'avaient plus de raison de revenir. Et ils ont cohabité, je ne sais pas s'ils ont fraternisé, mais avec les gardiens. Il n'y avait pas de haine. C'était pas du tout là. C'est pas du tout Et une chose étonnante, c'est que quand on nous a raconté aussi, quand ils ont appris la mort de Staline en 1953, les prisonniers se sont cotisés pour envoyer une couronne avec leurs petites économies, vous savez, minuscules.
Là, c'est presque inquiétant, malgré tout, pour leur santé mentale. Parce que
Non, parce que Staline, enfin, on ne va pas se lancer dans Staline. C'est quand même un grand homme aussi. C'est un grand homme d'État. Il n'était pas pire que Pierre le Grand, vous savez, qu'on en sent. Oh, c'est pareil, hein, avec des méthodes plus perfectionnées. Enfin, c'est un grand homme d'État qui a gagné la guerre, quand même, qui a permis. Il y a trop à dire, on ne va pas dire ça, mais c'est pas. S'ils ont fait ça, c'est que pour eux, c'était quand même le père de la Russie. Ils ont envoyé quand même spontanément des fleurs, je ne sais pas, des gerbes, enfin. Mm-hmm.
Ah, il y a une réhabilitation, d'ailleurs, actuellement en cours de Staline,
oui,
dans l'historiographie russe.
Ça aussi, ça peut être douteux, aussi, la réhabilitation. c'est très nuancé. Sur Staline, il y a ou le dénigrement total, ou la géographie totale. je crois qu'il y a beaucoup d'archives encore
qui sont pas explorées,
qui sont interdites, etc. Mais c'est quand même quelqu'un de considérable. On ne peut pas le balayer comme,
comme
un petit...
Ça, c'est certain.
C'est pas la Gestapo, hein, Staline, c'est vrai, mais...
C'est le NKVD. Mais bon, mais c'est...
Mais il était avant. La Tchéka, c'est une invention de Nicolas Ier, la police secrète qui a envoyé les gens. On a vu les vieux croyants qu'on a rencontrés. C'est Pierre Le Grand qui les a envoyés.
Oui, oui. Mais alors, cela dit... Là... Pour peut-être finir sur ce détail, sur ce point du goulag, les conditions de détention, par exemple, d'un Staline étaient bien différentes des conditions de détention des prisonniers de Staline. Staline avait quasiment une ordonnance qui était son gardien de camp, et son gardien de camp était devenu son ordonnance en Sibérie. Le jeune Staline, Djougadjili, un historien très connu,
un Anglais. C'est pas Staline qui a créé le goulag, c'est Lénine. Hein.
Je sais, c'est évidemment.
Là, maintenant, on tend à dire que Lénine c'est merveilleux, que Staline c'est
un
salaud.
Bien sûr, non.
Le pire salaud, c'est Lénine.
Il y a une filiation, évidemment.
C'est lui qui a dit qu'il faut tuer tous les intellectuels parce qu'il n'y a que de la merde dans leur cerveau, textuellement. Donc il a exterminé les prêtres, les intellectuels et une troisième catégorie,
et même les
nobles,
paysans, parce que on a des lettres de Lénine où il explique que pendant la famine en 16, je crois, donc avant la révolution bolchevique, il faut laisser mourir les paysans parce que ça va inciter à la haine envers les bourgeois. Oui. Donc il est très délibérément c'est un monstre absolu, Lénine. Oui.
c'est tous les grands. Pierre le Grand était un monstre.
C'est exact, oui.
Lui, il prenait son sabre et il coupait la tête des gens qui ne lui plaisaient pas lui-même.
Oui. Yvan le Terrible aussi, d'ailleurs, on peut remonter loin.
Le plus grand tsar, le plus connu, le premier, s'appelait Yvan le Terrible.
Oui. C'était bien pour quelque chose.
Pierre le Grand aussi. C'est hors dimension, c'est pas du tout une dimension rationnelle, mesurée, d'équilibre. Oui. Hein, ce sont des gens démesurés, comme les cinéastes, comme les romanciers, comme
les artistes,
comme les musiciens, les symphonies durent 1h30, les films durent 4h.
Et Saint-Pétersbourg est construit sur les ossements, c'est exact.
Oui.
Mais c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai.
Ah, mais bien sûr.
C'est ça la Russie, c'est ça qui est fascinant, ce mélange d'horreur et de génie. Enfin.
Alors vous parliez. Des prêtres qui ont été massacrés. Et aujourd'hui, on assiste également à un grand renouveau du christianisme. Et vous racontez notamment une anecdote très sympathique sur un prêtre qui bénit...
Ça, c'était très, très...
Qui bénit l'un d'entre vous, d'ailleurs.
Alors, en fait, nous étions un groupe et nous avons... Donc, quand nous avons quitté le bateau, laissé le bateau à quai sur le Yenisseï, nous avons rejoint donc ce terrible goulag donc, de Norilsk. Et en chemin, nous sommes arrivés à point nommé pour une fête religieuse qui célébrait donc le baptême. Et donc c'était en pleine nature, il y avait donc des popes, les gens étaient venus en autobus, en voiture, et le baptême se faisait avec des sources naturelles. Et donc on s'était approchés pour voir d'abord ce qui se passait, et puis évidemment ils nous ont entraînés dans la liturgie, et les gens buvaient de l'eau ou recevaient de l'eau. Bon. Et un de nous s'est approché, il lui a demandé s'il était croyant, il lui a dit pas du tout, il a dit que cela ne tienne. Et là, le baptême consistait en décollant justement le vêtement et en laissant glisser l'eau. Le glacé dans
il faisait 30 degrés. Voilà.
Je pense qu'il a un peu dévié la pratique, parce que je crois qu'il a eu envie de jouer. Et c'était très, très ludique, c'était très sympathique.
C'est amusant, ça, oui.
Ah, très
alors,
amusant,
c'est un christianisme, en fait, à mi-chemin, entre quoi? Entre paganisme, chamanisme? Ou alors, c'est un rite
Très orthodoxe, parce que l'Église a beaucoup de poids. Oui. Mais on sait, par exemple, avec, évidemment, les populations, je ne sais pas si ce sont des Inuits, mais enfin, dans cette population, l'hiver, d'ailleurs, il y a des musées qui sont consacrés à ces populations. On nous a, chanter des berceuses dans cette langue. Et là, on sait, en effet, on a visité un musée où le chamanisme est très important. C'est une forme d'animisme évidemment.
Oui, avec des mélanges de traditions populaires. Je crois qu'on boit de la vodka pour faire des bénédictions, etc. C'est un peu bizarre.
Ça, on boit de la vodka en toutes
circonstances. Ça, c'est vrai. Sur les tombes également. Avez-vous noté justement ce renouveau du christianisme? Parce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant en 2011. Medvedev, donc le président à l'époque russe, avait ordonné quelque chose qui semble invraisemblable en France. Et là, on rejoint ce que disait Dominique Fernandez sur le gigantisme et le côté incroyable parfois de la Russie. Il a ordonné la restitution des biens du clergé spoliés par les bolcheviks en 1917. Et apparemment, ça a refait de l'Église orthodoxe le premier propriétaire de Russie, et ça lui a redonné un prestige aussi bien social que médiatique, qu'économique et politique. Est-ce qu'il est notable, par exemple, en Sibérie?
On a vu de grandes célébrations près de Chouchenskoye, il y avait des baptêmes en série.
Ah, ça c'est
aussi bien des enfants que des adultes. Et ça, c'était donc dans, tout à fait par hasard. Donc je pense que c'est une pratique qui se rencontre régulièrement. Mais moi, j'ai pu le constater davantage avec le bloc de l'Est, et pas uniquement avec la Russie, au moins Athos. Parce que tous les Balkans, toute l'Europe de l'Est qui a été justement déchristianisée, a retrouvé des regains, on dira, je ne sais pas si c'est de la foi, mais enfin, disons, de vie. Et le Moitos est obligé aujourd'hui de se protéger contre les Russes. Parce que vous savez que sur les 20 monastères, un est russe, un est serbe et l'autre est bulgare. Les autres sont grecs. Et il y a ce qu'on appelle une skite qui est roumaine. Et les Roumains revendiquent. Là aussi, puisqu'il y a un énorme regain de chrétienté, dirons-nous, pour obtenir le statut de monastère. Et donc, pendant longtemps, les Russes étaient les plus présents, avec justement les tsars qui finançaient les monastères et les bateaux qui arrivaient directement de Crimée, les pèlerins, alors qu'aujourd'hui, donc, on se protège contre une trop grande présence russe au Moitos.
Enfin, je crois que c'est un peu comme ici, vous avez les catholiques, c'est-à-dire dans les grandes villes, il y a très peu de
pratiquants.
C'est plutôt les campagnes. Je crois que c'est. Il n'y a pas d'influence spéciale dans les églises russes. Enfin, c'est ce que j'ai vu.
C'était le vide ou.
Non, pas le vide, non, mais c'est pas.
Les églises sont pleines à Saint-Pétersbourg, quand même, Saint-Nicolas.
Mais il y a très peu d'églises. Il y a quatre églises.
Oui, oui, mais ce sont des. Si vous voulez, les églises vivent pleinement, oui.
Non, je ne sais pas si c'est.
À l'échelle de Saint-Pétersbourg.
C'est très important. Puis l'Église est très douteuse politiquement.
Ah, ça c'est sûr.
Elle douteuse. Et il y a des gens très bien, puis d'autres un peu moins.
Oui.
Quoi.
Oui. Et puis il y a aussi dans cette vogue de la reconstitution, la reconstruction des Églises,
effrayant.
Un moyen très pratique de blanchir l'argent, pour être absolument franc.
Oui, non, une chose monstrueuse à Moscou, là, l'Église que Nicolas Ier avait fait bâtir pour célébrer les victoires sur Napoléon. Comment ça s'appelle, Saint-Sauveur, ça.
Oui, Saint-Sauveur qui a été détruite.
Le Seigneur a fait détruire, une piscine ronde,
et qui a
énorme,
été reconstruite. Oui.
Ils ont construit à l'identique, mais ça a dû coûter des millions. Je ne sais pas qui a financé ça. Il y avait des choses plus urgentes, je crois, à faire. Je trouve que c'est très laid, en plus. Très, très laid. Et alors, à Ekaterinbourg, à la place, à l'endroit où Nicolas II a été tué avec sa famille, on a construit une espèce de basilique horrible aussi, qui est devenue une espèce de marché de médailles, de breloques. C'est assez répugnant tout ça.
Et
ça coûtait beaucoup d'argent, comme toujours. Ça fait. Alors il y a des gens, il y a des vieilles femmes pieuses ou des vieilles nostalgiques.
Les babouchkas.
Des Rachmaninov, des Romanov qui viennent là. Mais c'est pas très. Je crois que c'est très significatif de la Russie.
D'accord. Alors ce qui est significatif, c'est un peu cette misère que vous évoquez. Donc vous dites qu'il y avait peut-être des choses plus urgentes à faire. Effectivement, il y avait peut-être. À redresser un peu le mode de vie de gens perdus en dehors des grandes villes. Parce qu'en fait, en dehors des grandes villes, la misère règne. Et même à l'intérieur des grandes villes, finalement, si on sort des 4 ou 5 grandes artères d'une grande ville, on retombe très très vite sur une misère noire.
Oui, mais à Paris aussi, vous savez.
Moins,
c'est même,
non.
Même pas la peine de sortir du centre.
Vous croyez?
Vous savez, moi je prends le métro tous les jours, il y a une misère galopante, envahissante, qui ne sont pas des clochards professionnels, qui sont des gens sans travail. Et c'est... Alors, je crois que c'est...
Vous ne trouvez pas que c'est plus frappant, quand même, dans une ville russe? Non.
Ah non, les villes qu'on a vues, mais on a vu une toute petite partie de la Sibérie, c'est tellement grand. Mais Krasnoïarsk ou Novosibirsk, c'est des villes modernes, très modernes, où les gens sont très bien habillés. On a vu un dimanche avec les enfants, tout ça, c'était pas du tout, ça n'avait pas du tout l'impression de misère. Il y a toute une classe moyenne qui a émergé en Russie depuis 20 ans, de techniciens, d'ingénieurs, de professeurs, je ne sais pas quoi, qui vit exactement comme ici. Il y a des grands magasins très bien achalandés, c'est vraiment l'Europe moyenne. Moi, je trouve qu'à Paris, c'est pire. Il y a une dégradation du tissu social qui est vraiment effrayant.
Mais surtout qu'en plus, en Russie, surtout à Moscou, on sent les grandes fortunes.
Ah oui, c'est certain.
Il y a une débauche.
Mais Moscou est Moscou. C'est-à-dire Moscou est comparable à une capitale.
Non, mais Novosibirsk, c'est pas Moscou, mais c'est très... Non, le seul problème, je crois que c'est les personnes âgées, les retraites, là, ça qui sont laissés de côté, qui sont... Quoi qu'il y ait quand même la solidarité familiale qui joue plus qu'ici. Hein.
Oui.
Souvent, les grands-mères sont aidées par leurs enfants.
Oui.
Enfin là, c'est pas commode, évidemment.
Et on rejoint le train, d'ailleurs, c'est très rigolo, parce que souvent, les enfants partis dans les grandes villes se font approvisionner en alimentation, en chaussettes, etc., par les parents restés oui. en province, par le train. C'est-à-dire on met un colis dans oui. un wagon et oui. on dit ce sera voiture temps oui. et tu vas, le train oui, arrive oui, à telle heure du matin. Voilà, oui, c'est assez oui, rigolo ça. Oui. Mais il y a aussi l'alcoolisme, non, qui est quand même plus galopant qu'en France.
Oui, mais ça c'est aussi c'est endémique.
Et qui est une forme depuis... de misère, oui.
Non, parce que enfin, c'est depuis les origines toujours. De la Russie, la vodka. La vodka, d'abord, est nécessaire quand il fait froid. C'est le seul ouais. alcool qui réchauffe vraiment, pendant une demi-heure en tout cas. Ouais. Après, il faut...
Après, il faut reprendre une dose.
Voilà. Mais c'est lié, ça aussi, c'est lié au problème de... Oui, pas seulement de la misère, mais de la solitude aussi. Je crois que c'est pire que... D'ailleurs, Tesson, il dit rien dans son livre. Il a souffert pas oui. du froid, mais de la solitude. Mmh. C'était vivre 6 mois dans une cabane.
Bien sûr, oui. Sauf qu'il l'a cherché, lui. C'est quand même
oui,
très différent. Voilà.
Mais enfin, quand même,
c'est une expérience.
C'est oui, oui. Je crois que l'isolement, quand même, doit être assez pénible. Oui. Donc on boit pour s'entretenir.
Oui. Et alors, à votre avis, que manque-t-il, et faut-il d'ailleurs, que la Sibérie devienne un espace où le niveau de vie augmente, c'est-à-dire avec tout ce qui accompagne l'augmentation d'un niveau de vie, c'est-à-dire une forme d'urbanisation.
Mais il augmente dans les villes, il augmente le long du train parce que c'est le seul.
Oui, mais de manière extrêmement limitée encore.
Vivable, mais le reste, on ne peut pas. Pareil, il y a des étendues, mais gelées complètement. Oui. Pendant 10 mois, je veux dire, il n'y a pas de vie possible, sauf quelques chasseurs, quelques prospecteurs. Alors, il y a des villes artificielles. Exact,
c'est ce que j'allais vous dire. Gazprom construit des villes totalement artificielles.
Mais déjà, avant, même sous Staline, il y avait.
Ah, ça, j'ignorais.
Comme Norilsk. Des villes de.
Dodinka.
Des gens qui ne sortent pas.
On vit quasiment en souterrain.
Oui, comme au Canada. On fait du business quelques temps, puis on repart. Mais c'est pas habitable. C'est pas habitable. Il y a quelques Esquimaux, peut-être dans une hutte, dans une igloo. Mais c'est pas. Je crois que c'est pas habitable. C'est pas.
Donc la Sibérie reste un espace non...
richissime.
Que l'on ne peut pas conquérir, alors.
C'est très riche, à cause du sous-sol.
Oui.
Et du bois aussi, d'ailleurs, parce que le bois, c'est précieux.
Bien sûr.
Et en même temps, interdit par les conditions climatiques. Et la distance, quand même, parce que c'est...
Il faut quand même préciser que quand nous étions allés en 1995 à Nizhny Novgorod, la ville venait d'être réouverte. Donc on a vu la première fois le sentiment d'être dans un lieu qui longtemps avait été coupé des réseaux internationaux, dirait-on, pour des raisons que l'on peut deviner, puisque ces villes étaient des villes d'armement,
bien sûr,
etc.
Oui. Il y a un très beau musée à ciel ouvert, musée des blindés.
Absolument.
Des MiG, des sous-marins.
Mais là, on a eu le sentiment, en arrivant à Norilsk, qu'on revient un peu à la même chose, parce que c'était une période privilégiée, par les raisons climatiques et puis les conditions de voyage, parce que c'est une ville encore aujourd'hui, non pas interdite, mais vous ne pouvez pas un jour décider d'arriver à Norilsk. Vous devez vous faire inscrire.
Enregistrer. Oui. Mais ça, et c'est un peu vrai dans toutes les villes, finalement, non ? À Nizhny Novgorod aussi, on doit se faire enregistrer.
Non, mais non. Ça, mais vous descendez du train à tout instant. Mais à Norilsk.
Je vous garantis qu'on se fait enregistrer. Moi, j'ai été victime de corruption. Parce qu'on m'a fait payer 50 euros pour être enregistré.
Il y a combien de temps ?
Il y a un an.
Ah oui.
Alors nous étions très attendus alors.
Oui. Il faut se rappeler que...
Ils ont vu un occidental, ils se sont dit, lui, il va payer.
Il faut rappeler quand même que c'est la Sibérie qui a sauvé la Russie pendant la guerre, parce que les Russes ont transféré de l'autre côté de l'Oural. À cette époque, les avions allemands n'étaient pas assez puissants à atteindre, il n'y avait pas de trop loin. Donc les usines, c'est pour ça qu'à Ekaterinbourg, à Novosibirsk, et aussi, également, ils ont les musées. Hein. L'Ermitage a été mis au-delà de l'Oural. Les orchestres symphoniques, le grand orchestre de Leningrad et de Novosibirsk, où il y a la plus grande école de musique russe encore aujourd'hui. Ça a vraiment sauvé la... C'est là qu'on fabriquait les tanks, les avions, qui ont permis de gagner la guerre. Quand même. Oui.
Et ce sont des villes, d'ailleurs, qui ont dû recevoir des médailles, non ? Qui ont dû être faites héros de l'Union soviétique.
On
distribue beaucoup de médailles, Même les bouteilles de vin ont des médailles, en Russie. C'est exact. Alors, peut-être pourrait-on revenir un peu sur votre métier de photographe, Ferrante Ferranti. Vous avez un peu répondu, d'ailleurs, à ces questions que je me posais, mais comment avez-vous choisi vos thèmes et, finalement, comment travaillez-vous ? Donc là, finalement, l'ennui avec ce train, le défi, en tout cas, c'est que vous étiez obligé donc d'être dans l'instantanéité absolue. C'est-à-dire que normalement, je suppose que vous pouvez faire des repérages et vous vérifiez les lumières. Vous dites « je reviens demain à 17h ». Tandis que là, c'est vraiment...
Moi, j'ai des destinations rêvées, comme tous, hein, comme tous les enfants, les adolescents et ensuite les adultes qui commencent à voyager. Moi, j'ai toujours rêvé, je suis un fils de la Méditerranée, donc mes rêves, c'était évidemment les anciennes civilisations et puis le Moyen-Orient. Depuis toujours, je rêvais de Syrie, etc. Et quand les horizons se sont élargis, avec M. Fernandez, on a quand même beaucoup travaillé sur le baroque, il y a eu la découverte merveilleuse, enfin, donc émerveillée de l'Amérique latine, et c'est là vraiment que j'ai découvert l'espace. Et l'espace, les contraintes de l'espace liées à la photographie. Le transsibérien, en fait, c'était pas du tout... moi, je suis aussi, bien sûr, fasciné par la littérature russe, mais c'était surtout le rêve d'enfance de Denis Fernandez. C'était pas le mien. Mm-hmm. Moi, le transsibérien était un train comme un autre que j'aurais été heureux de prendre. Mais quand le projet est né, ça m'a absolument fasciné. Donc, vous avez prononcé le mot, c'est un défi. Toute prise de vue, quelle qu'elle soit, est un défi. Parce que, d'abord, il faut être dans l'énergie, comme le disait Dominique aussi, quand vous allez... Quand vous voyagez, il y a des gens qui traversent. Moi, je vois, il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus d'appareil photo. Paradoxalement, parce qu'on voit que des gens qui cliquent et qui ne voient même pas. Il y a des gens qui sont en réaction. J'en parlais encore avec des amis dernièrement qui me disent, moi, désormais, j'ai envie de retrouver, d'avoir un regard vierge sur les choses et puis de garder des souvenirs qui peut-être s'effaceront. Mmh. Parce que c'est bien beau de faire des milliers de photos si vous les regardez.
On ne les regarde jamais.
Voilà. Ouais. Donc, je crois qu'il faut trouver un équilibre. Moi, j'ai besoin des regards. C'est mon mode de vie. Je suis extrêmement exigeant. Je suis toujours tendu vers ces traces du regard. Mais ce que j'aime, c'est que la photographie restitue, comme une note de M. Fernandez, l'instant total. C'est-à-dire qu'il y a une chose aussi qu'on dissocie de l'image. L'image est arrêtée. Or, les gens s'arrêtent justement sur une largeur et une longueur de l'image, mm-hmm. et qu'elle n'est que deux dimensions.
Oui, manque la profondeur.
On oublie deux choses. La troisième, la profondeur, qui est, selon moi, c'est ma théorie, nécessaire pour chacun et lié à chacun, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire que ça vous permet d'entrer dans le document, surtout quand vous prenez le temps de le regarder, parce qu'il ne suffit pas de faire une photo, mais il faut aussi lui donner le temps de raisonner dans le temps, dans l'espace, etc. Et puis, deuxième chose qui, moi, m'a toujours passionné, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'une image, on arrête le fameux instant décisif de Cartier-Bresson, on lit l'image pour ce qu'elle est. Mais il y a tout un contexte de prise de vue, et il y a toute une série d'images qui peuvent dire différemment l'instant qu'on a arrêté. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est ce mot que j'ai déjà prononcé, c'est l'épaisseur. Mmh. Je trouve que, enfin, pour moi, les photographies sont épaisses, comme un texte, c'est-à-dire que je ne m'arrête pas justement à une seule image que je trouve très belle, même si je vois une image que j'aime, eh bien il y a chez moi une forme d'instinct ou simplement un exercice, hein, peut-être lié à l'œil mais aussi à mes caractéristiques sensibles, qui fait que moi j'imagine tout ce qui est autour.
Alors il y a une très belle photo, vous parlez de profondeur et d'épaisseur, une très très belle photo à Kazan, des bulbes d'une église vues à travers les ruines d'un palais. C'est, je ne sais pas si vous.
Oh, très
vous
bien, bien sûr, c'est un grand mur vert avec deux bulbes bleus.
C'est absolument splendide.
Enfin, oui, parce qu'elle dit.
Comment l'avez-vous composé? Est-ce que là, vous manquiez de temps peut-être? Ou non, avez-vous pris le temps de
là,
revenir
c'était
le
une
lendemain
grande promenade. Non, non, justement. Alors là, c'est intéressant parce que je suis passé deux fois dans
ce
voyage.
Ah, ben voilà, je me disais que ça nécessitait
un
repérage.
Étions, ce voyage, il y a trois voyages. Mmh. Il y a la distance du train, on l'a dit, le bateau. Mais il y a les escales. Les étapes étaient passionnantes parce que, par exemple, avec Dominique Fernandez, quand nous étions à Norilsk, on marchait, comme c'était les nuits blanches, on marchait parfois jusqu'à 2h, 3h du matin. Et moi, il m'arrivait de me lever à 7h du matin, c'est-à-dire qu'en fait, je n'avais jamais vu la nuit, et ça décuplait les visions. En plus, le sentiment très aigu d'être dans une ville où on ne reviendra jamais, il n'y a aucune raison que je revienne à Norilsk, je crois, parce qu'en mode d'être réinvité, mais on était dans j'allais dire une effervescence, mais c'était dans une espèce d'excitation liée à un temps suspendu.
Oui, au-delà du cercle polaire, il faut ajouter pour les auditeurs, c'est quand même pas...
Ce n'est pas
Bécon les Bruyères.
Et ça crée, si vous voulez, dans l'approche du lieu, dans la démarche, dans la perception des choses, un émerveillement permanent, ce qui donne des photos différentes. Et en effet, cette photo que vous décrivez, pour moi, je la décris pour ceux qui ne la voient pas, mais c'est un grand mur vert et elle reflète deux choses. Premièrement, la conscience aujourd'hui de devoir sauver le patrimoine, c'est-à-dire qu'au lieu de tout détruire et de construire des façades comme on en voit dans le monde entier qui affreuse, ont nié l'histoire, cette façade est ruinée. mais il y a des bâches vertes qui ont servi probablement à des projets de restauration, mais il n'y a plus rien derrière. Et dans deux des ouvertures, la façade était gigantesque, elle se déployait sur des dizaines et des dizaines de mètres. Eh bien, j'ai choisi le seul endroit où on voyait une église du XVIIIe siècle qui s'inscrivait très précisément dans les deux ouvertures. Donc il y a une dimension physique que jamais le train n'aurait favorisée.
Bien sûr.
C'est une disposition dans l'espace.
Je voudrais dire que je saute là du coq à l'âne, mais il y a deux grands romans français sur la Sibérie. L'un très célèbre, qui est Michel Strogoff. C'est mon rêve sibérien est né à 12 ans. C'est un des plus beaux romans jamais écrits. Il n'y avait pas le temps sibérien à l'époque. Il va jusqu'à Irkoutsk, c'est-à-dire jusqu'au milieu. Mais c'est un roman fascinant, l'histoire du courrier du tsar, toutes les aventures, tout ça, lac Baïkal. Et puis un autre moins connu, qui est Alexandre Dumas, qui s'appelle Le Maître d'Armes, qui est l'histoire d'une déportée, d'une Française qui a suivi son compagnon russe déporté, et qui, tout le voyage, avec les tempêtes de neige, l'attaque des loups. Et donc la Sibérie est très inscrite même dans l'imaginaire romanesque français, à travers ces deux immenses écrivains.
Alors vous parliez de Michel Strogoff. Et j'en reviens à ces photographies, à Irkoutsk, où vous montrez, Ferrante Ferranti, de magnifiques petites maisons en bois, que l'on retrouve aussi à Nijni Novgorod d'ailleurs, et qui nous ramènent un peu, deux ou trois siècles en arrière littéralement, parce que ce sont des maisons qui sont totalement anachroniques aujourd'hui, ces petites maisons en bois.
Ils ont pris conscience.
Alors, soit on les détruit, soit on les restaure. C'est-à-dire que très souvent, on les incendie, enfin de temps en temps, on les incendie, parce qu'il était manque le terrain... peut être l'occasion, dans le contexte évidemment de corruption généralisée, de les détruire et de faire autre chose. En revanche, il y a des associations, on a vu des enfants qui dessinaient et qui essayaient ou des professeurs qui sensibilisaient les enfants à une architecture qui était sur le point de disparaître, comme à Pékin, en Chine, c'est la même chose. Quand on voit ce qui reste d'une ville qui était encore il y a 50 ans, bien décatie certes, mais qui donnait encore l'image des fastes de cette ville, et qu'on a sauvé un tout petit quartier par miracle, comme une espèce de mémoire aiguë de ce que l'on a détruit.
Perdu, oui.
Perdu.
Alors malheureusement, le temps nous presse, j'avais encore bien des questions à vous poser, mais il va falloir aller au plus vite. Pouvez-vous éventuellement donc nous donner vos impressions, les leçons, s'il y en a, que vous retenez donc de ce périple, enfin qui n'est pas un périple, c'est un voyage. Il n'y a pas de leçons. Il y a un rêve. Oui, allez-y.
On peut maintenant, il y a des agences qui vous font des billets, qui peuvent même prendre des billets d'hôtel. Ça facilite, ou procurer un guide francophone. Il faut y aller, quoi. On peut pas décrire ni la photo ni l'écriture. Ne peuvent rendre, je crois, cette immensité. C'est au-delà. Lac Baïkal, qui a 600 km de long, même d'avion, pareil, on ne peut pas avoir une vue générale. Vous voyez,
Oui, c'est une mer intérieure.
C'est une vue satellitaire qui permet justement cela. Moi, je dis que le seul conseil, c'est de s'abandonner. Au-delà d'y aller, il faut s'abandonner. Mais ça vaut pour tous les grands voyages.
Mais on peut s'abonner une fois qu'on y est allé.
Oui. Non, mais une fois sur place, ou même à partir du moment où vous décidez d'aborder ce continent en ayant la conscience que de toute façon, vous ne ferez que l'approcher, l'effleurer, c'est ça. Un peu comme l'Inde, je crois que l'Inde, c'est des pays qui font peur, et par l'espace, par la culture, et que le jour où vous perdez vos repères, eh bien, vous en constituez d'autres. Et vous recevez ce que le pays vous offre.
Oui. Est-ce que vous méritez d'en recevoir peut-être ?
Oui, aussi. Ça, c'est très net.
Chers auditeurs de Canal Academy, notre voyage touche donc à sa fin. J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir le rêve sibérien, donc en marchant sur les traces de Dominique Fernandez et de Ferrante Ferranti, ou plus simplement de le prolonger depuis votre maison, si vous n'avez pas le temps, en vous plongeant donc dans leur ouvrage commun, magnifique ouvrage, je rappelle, intitulé Sibérie au pluriel, publié en coédition par Actes Sud et l'Imprimerie Nationale. Je vous donne donc la semaine prochaine pour une nouvelle découverte sur les ondes de Canal Academy. Vous pouvez retrouver Ferrante Ferranti sur son site internet www.ferranteferranti.com je vous rappelle également la publication d'un livre sur l'Académie française qui s'intitule Académie française, toujours de Ferrante Ferranti et Dominique Fernandez, aux éditions Philippe Ray. À bientôt.